Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Mon nom est Chris Dikoumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé le 7 décembre et nous avions une question à répondre. Pourquoi doit-on prier pour le pays? Il est bon qu'on comprenne l'importance de prier pour le pays. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi nous devons prier pour un pays. J'ai entendu ceux qui disent qu'on ne peut pas prier pour le pays parce que le pays n'a pas l'alliance avec Dieu comme Israël. Mais j'aimerais que vous compreniez que Dieu contrôle tous les pays. Si vous lisez dans Daniel chapitre 2 verset 21, il est écrit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc on voit bien que c'est Dieu qui établit les rois. À l'époque c'était les rois, aujourd'hui ce sont les présidents dans plusieurs pays. Ça veut dire que tout ce qui dirige les pays, c'est Dieu qui permet qu'ils soient là. Personne ne peut être à la tête d'un pays si Dieu ne le permet pas. C'est écrit dans Daniel chapitre 2 verset 21. Donc Dieu a le pouvoir sur tous les pays du monde. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais tous les pays du monde sont sous le contrôle de Dieu. La même parole dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du malin, c'est-à-dire la puissance de Satan. Et la raison pour laquelle nous devons prier pour le pays, c'est pour que la puissance de Dieu domine la puissance de Satan. Si nous ne prions pas pour le pays, c'est la puissance de Satan qui va dominer. C'est ça l'importance de prier pour un pays. Dans Matthieu 6 verset 10, Jésus nous a enseigné à prier. Il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça dit qu'au ciel, il y a une volonté pour un pays, mais si nous ne prions pas, c'est la volonté de Satan, c'est la puissance de Satan qui va dominer. Donc, quand nous prions pour le pays, c'est la puissance de Dieu telle qu'elle est au ciel qui va se manifester sur la terre. Dans chaque pays, il y a des croyants. C'est pour cela que quand nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il est dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, et quand on parle mon peuple, Dieu parlait de peuple d'Israël. À l'époque, c'était Israël, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, dans chaque pays, le peuple de Dieu, ce n'est pas Israël. Le peuple de Dieu, ce sont les croyants. Au Congo, il y a le peuple de Dieu. En Tanzanie, il y a le peuple de Dieu. Au Cameroun, il y a le peuple de Dieu. Au Togo, il y a le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Si vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés. Vous êtes le peuple de Dieu. Et quand il dit mon peuple, c'est de vous dont il parle. Et dans 2 Chroniques, il est dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a quatre choses. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner des mauvaises voies. Qui fera ça? Le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons le devoir de prier pour le pays. Partout où tu es, toi qui es sauvé, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois prier pour le pays. C'est pour ton intérêt. Quand tu pries pour le pays, c'est pour ton intérêt. Si vous lisez dans Jérémie 29, verset 7, il est dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. En faveur de quoi? En faveur de cette ville, là où vous êtes. Parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que vous comprenez ça? Votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du bonheur de la ville où vous êtes. Ce n'est pas forcément le pays natal, là où vous vivez. Priez pour cette ville. Si vous êtes en France, priez pour la France. Parce que ton bonheur dépend du bonheur de la France. Quand il y a la paix, quand il y a la tranquillité dans le pays où tu es béni. Tu vas bénéficier de cette tranquillité, de cette stabilité. Mais s'il y a la guerre, s'il y a les tourments, tu peux pas avoir le bonheur. Tu seras aussi tourmenté parce qu'il y a le tourment là où tu es. Donc, tu as intérêt de prier. Quand tu pries, Dieu intervient. Nous sommes appelés à prier pour nos pays de résidence et les pays d'où nous venons. Nous avons vu que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2, de prier pour tout le monde en général, mais de prier particulièrement pour ceux qui sont élevés en dignité. Si vous lisez dans Romains chapitre 13, le premier verset, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Si on est donc soumis à l'autorité, on doit prier pour cette autorité, pour que Dieu la fortifie, pour que Dieu prenne le contrôle, pour que Dieu crée de bonnes idées, les idées qui sont conformes à sa volonté. Voilà pourquoi nous devons prier pour le pays. Si nous ne prions pas pour le pays, il y a la puissance de Satan qui va dominer sur le pays. Mais quand nous prions, c'est la puissance de Dieu qui écrase la puissance de Satan et que la volonté de Dieu soit faite dans son pays comme elle est au ciel. Donc partout où tu es, prie pour ton pays, prie pour la ville où tu es et prie pour ton pays d'origine parce que tu as le devoir. Ce n'est pas par hasard que tu es congolais, ce n'est pas par hasard que tu es camerounais, que tu es sénégalais. Prie pour ton pays. Ne prie pas seulement pas pour tes propres soucis, mais prie pour ton pays parce que tu vas en bénéficier également. C'est ici que se termine cet enseignement. J'espère que ça vous a aidé, car si nous prions tous pour nos pays, nous verrons la main de Dieu dans nos pays. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Hier, je vous ai parlé de ce qui peut causer la confusion aux gens. On a vu que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas accepter tous les esprits, mais que nous devons éprouver les esprits. Nous avons lu ça dans 1 Jean chapitre 4, du 1er au 3e verset, parce qu'il est écrit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits ». Voilà le but de cet enseignement. Il faut apprendre à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On a défini au deuxième verset que l'esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Ici, c'est pas forcément l'homme qui confesse, mais c'est l'esprit qui confesse. Et au troisième verset, il est dit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ». C'est là où il y a la confusion. Quand j'étais jeune et que je donnais ma vie à Jésus, au début, je croyais que tout homme qui confesse Jésus est de Dieu. Et j'étais dans la confusion d'apprendre que tu peux confesser Jésus alors que tu es un faux prophète. Si je ne comprenais pas, quelqu'un qui confesse Jésus qui prêche Jésus alors que c'est un faux prophète. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'il y a l'esprit qui confesse Jésus et la personne qui confesse Jésus. Parce que tu peux confesser Jésus alors que tu as un mauvais comportement et que tu es un faux prophète, que tu n'as pas le fruit de la repentance. Jésus n'a pas dit qu'il faut considérer les prophéties, mais il a dit qu'il faut considérer les fruits. C'est pour cela que je vous ai donné les quatre signes qui peuvent montrer qu'un prophète est de Dieu ou pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Le vrai et le faux, parfois tu ne peux pas distinguer à l'œil nu. C'est comme les dollars, les billets de dollars. Il y a des vrais billets de dollars et des faux billets de dollars. Si on te donne deux billets, le vrai et le faux, et si tu n'as pas d'expérience, tu ne pourras pas distinguer. C'est pour cela que dans certaines banques, il y a des appareils qui sont faits pour ça. Tu fais passer le billet à travers l'appareil et l'appareil te dira que c'est un vrai ou un faux. Pourquoi cet appareil? Parce que c'est pas facile de le voir avec tes propres yeux. Même les faux prophètes, il y a les faux prophètes qu'on ne peut pas discerner rien qu'en les regardant parce qu'ils parlent de Jésus. Ils ont l'apparence d'un homme de Dieu et c'est pas facile de le voir. Il y a les quatre signes qui ne trompent pas. Je vous ai parlé de ces quatre signes durant tout l'enseignement et je vais encore les répéter parce que ce sont des signes qui ne trompent pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, on nous dit qu'il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Les enfants de Dieu doivent connaître les desseins de Satan. Il y a les ruses de Satan. Il sait comment se faufiler et ce ne sera pas facile de le voir si tu n'as pas ces enseignements. Ces enseignements, c'est un équipement qui te permettra de discerner le vrai prophète, le vrai serviteur de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous donne pas ces signes pour les juger. Ne jugez personne. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut t'éloigner de ces hommes-là pour te protéger. Parce que si tu ne t'éloignes pas, tu seras contaminé. L'esprit satanique est contagieux. C'est très important. Il faut savoir que c'est contagieux. À force d'écouter des faux prophètes sur YouTube, sur Facebook, tu les écoutes régulièrement. Avec le temps, tu ne sauras pas comment tu as changé. Tu vas commencer à sécher spirituellement. Tu avais une vie de prière, tu n'arrives plus à prier. Ça devient lourd de prier. Et le comportement change. Il y a des désirs qui naissent de ta chair que tu n'avais pas avant. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il faut t'approcher de vrais serviteurs de Dieu et être avec les enfants de Dieu qui sont dans la sanctification. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer les serviteurs de Dieu. Ils peuvent faire semblant d'être des serviteurs de Dieu et tu ne le sauras pas parce qu'ils savent vraiment le faire comme des acteurs. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 14, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Ici, on nous parle du déguisement. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Ce ne sont pas des apôtres de Christ, mais ils se déguisent. Ils font semblant. Ils parlent comme eux. Ils imitent les apôtres de Christ. Et si tu ne sais pas le discerner, tu ne le sauras pas. Verset 14, il est dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Verset 15 dit, « Il n'est donc pas étrange que ses ministres, les ministres de Satan, se déguisent Moïse aussi en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils ont la facilité de se déguiser. J'aimerais vous dire, vous qui aimez les films de Hollywood, qui parlent de Jésus, les 10 commandements, tous ces films bibliques que vous voyez jouer à Hollywood, la plupart, presque tous ces acteurs ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens. La plupart sont des drogués, mais ils ont le talent de jouer. Ils savent se déguiser. Ils peuvent imiter la façon dont le prédicateur prêche. Ils peuvent imiter les versets bibliques, imiter les choses bibliques, mais ils ne peuvent pas imiter la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas imiter l'onction. Il y a des choses qu'on ne peut pas imiter. C'est pour ça qu'il faut toujours se concentrer sur les 4 signes, la parole de Dieu, l'humilité, la vie de prière et surtout la délivrance de la cupidité. Donc faites attention à ceux qui savent imiter ou se déguiser. Si je suis le veux, je vais en parler demain et ce sera la fin de cet enseignement. Que je suis vous bénisse. Passez une excellente journée.